Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et pour terminer notre rendez-vous hebdomadaire, on va s'intéresser au contexte de marché en accueillant Eric Blaine. Bonjour Eric.
Oui, bonjour Cédric.
Merci d'avoir répondu à mon invitation et d'être là sur Radio Patrimoine, dans Cœur de Patrimoine pour Swiss Life Gestion Privée. Quels sont les principaux éléments qu'il y a sur le bureau d'Eric Blaine en ce moment et qui permettent de lire finalement, d'appréhender le contexte financier actuel?
Alors en ce moment, c'est simple, c'est focus sur les taux. On a vraiment... Première chose qu'on regarde le matin en ouvrant ses ordinateurs, c'est déjà l'écart de taux entre le taux de la Bundesbank, le taux obligataire 10 ans allemand et le taux du 10 ans donc français. Et on regarde si cet écart a bougé ou pas pour s'apercevoir si la France est sous pression des marchés financiers, anglo-saxons en particulier, ou s'il reste dans des espaces à peu près connus. Pour l'instant, on y est encore, on est à 72 points de base si je ne me trompe pas, ça n'a pas bougé entre le moment où je suis venu ici et le moment où je suis parti du bureau. Ce qui est plus élevé que ce qui était avant donc la décision de notre président de dissoudre l'Assemblée nationale, mais ce qui reste encore raisonnable, mais on est plus haut que les Portugais et pas loin des Espagnols.
Voilà un petit peu donc ce premier critère que vous prenez en compte. Quand on parle de taux, inévitablement on se dit politique monétaire, banque centrale. C'est vrai qu'on a vu la Banque Centrale Européenne prendre le lead. C'est une première historique. Alors bon, nous, les journalistes, on aime bien quand on peut mettre première, quand on peut mettre historique. On est toujours assez gourmand de ce genre de superlatif. On a la Fed qui devrait déclencher sous peu. Malgré tout, quand on les écoute, nos banquiers centraux, on a l'impression qu'ils sont contents du travail qu'ils ont opéré sur la lutte contre l'inflation, etc. Ils disent que c'est concret, que c'est réel, mais que c'est pas suffisamment convaincant. Est-ce que vous partagez un petit peu cette vision? C'est un peu ce qui est ressorti de ce grand symposium de Jackson Hole, où se réunissent tous les banquiers centraux à la fin de l'été. C'est un peu ce qui en est ressorti. Comment est-ce que vous voyez les choses, vous?
Moi, il me semble qu'on peut faire une grosse différence entre ce qui s'est passé aux États-Unis et ce qui s'est passé en zone euro. En zone euro, la hausse de l'inflation, elle est venue essentiellement, si j'ai tout compris, par les problématiques liées au Covid de la Chine, où on n'arrivait pas à se procurer des biens qui normalement arrivent de là-bas par bateau. On avait des goulets d'étranglement. Et puis, on avait la hausse des matières premières du fait de l'approvisionnement en énergie, notamment, et de la guerre en Ukraine. Donc, on avait une inflation qui était totalement indépendante de phénomènes domestiques. Mmh. Et donc, la hausse des taux, franchement, elle n'avait pas vraiment raison d'exister. Et elle a été pourtant très violente, donc elle a ralenti l'économie. Donc aujourd'hui, qu'on retrouve en zone euro une inflation qui va mieux, puisque les produits exportent de Chine, la Chine exporte une déflation aujourd'hui, et puis les problématiques en Ukraine sont quelque part résorbées économiquement par le fait que donc on importe notre gaz du Moyen-Orient, d'Algérie et de Norvège, fait que on a, alors c'est peut-être plus cher, mais en tout cas on a résorbé les gros problèmes de goulets d'étranglement. Donc je sais pas très bien pourquoi la BCE a monté de ses taux, et surtout, alors qu'il les monte un peu, oui, mais qu'il les monte de cette ampleur aussi rapidement, je pense qu'on était quand même quelque part dans quelque chose d'absolument anormal. Sinon, que l'on suivait les États-Unis, qui eux avaient de meilleures raisons de monter les taux, et qu'on voulait pas certainement avoir de l'inflation importée du fait d'un décalage entre le dollar et l'euro encore plus important.
Et justement, si on compare les deux, on a l'impression que la banque américaine, qui donc n'a pas pris la première décision, contrairement à ce qui s'est passé depuis que ces deux banques existent, enfin depuis que la BCE en tout cas a rejoint la Réserve fédérale, et bien on a l'impression que cette première baisse de taux, on nous avait annoncé presque un truc fantastique, le consensus était autour de 50 points de base, et puis plus on s'approche de la décision qui devrait intervenir vraiment très rapidement, les 25, et encore, on a l'impression qu'en fait, la Fed a peur de frapper trop fort.
Oui, là, c'est chaud, je pense. Je pense qu'effectivement, c'est une décision qui va être importante, puisqu'elle nous annonce un changement de cycle, puisqu'on ne parle pas d'une baisse des taux, mais on parle d'un programme de baisse des taux.
Oui, c'est ça.
Un cycle économique.
C'est la première d'une série.
Voilà. Et clairement, on a une inflation moins forte, mais l'inflation, elle est domestique, on est bien d'accord. Et ce qui fait bouger la Fed, c'est notamment que le marché de l'emploi se comporte bien moins bien qu'il ne s'est comporté précédemment. Sinon, on était encore dans une période où l'économie américaine était extrêmement robuste. Donc, est-ce qu'elle se retourne d'une économie robuste à tout d'un coup une récession ? Pas forcément quand même. Hein. Et puis, est-ce que si on baisse les taux de 50 points de base, on ne fait pas passer au marché financier une inquiétude trop importante? C'est pas forcément non plus le message qu'ils veulent donner. Donc, moi, il me semble que ça se paraît raisonnable de baisser, de montrer que cette baisse de taux, elle arrive là, effectivement, cette semaine, mais elle arrive à 25 points de base. Je pense que 50 points de base va faire plutôt peur au marché qu'autre chose.
Et puis, il y a là-bas aussi, parce que j'allais dire chez nous également, mais des questions politiques. Parce qu'aux États-Unis, on est dans le gros de la campagne, hein, on votera en novembre. Et puis, on a aussi des soucis politiques en Europe. L'homme de marché que vous êtes, qu'est-ce qu'il se dit face à ces questions politiques ? J'ai l'impression, moi, que depuis 15-20 ans, chaque fois que je pose la question, on me dit non, mais maintenant, Cédric, les marchés, ils s'en foutent du politique.
Ah mais là c'est tout rouge quoi. Si on regarde le scénario géopolitique et politique, c'est tout rouge. Le monde a vraiment changé hein, entre il y a maintenant 7-8 ans et le monde d'aujourd'hui. On voit bien que les responsables politiques sont plus du tout les mêmes. Ils ont une politique bien plus domestique et bien moins internationale. Il y a des confrontations dans tous les sens entre la Chine et les États-Unis ou les États-Unis et la Chine, l'Europe et la Chine. Et la Chine et le reste du monde, le Moyen-Orient qui est extrêmement compliqué, la Turquie qui est compliquée, la Russie qui est compliquée, la relation franco-allemande est compliquée, l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite en Italie complique les choses. C'est compliqué. Je pense que là, on est vraiment tout rouge. Est-ce que l'influence sur la bourse est si importante que ça aujourd'hui ? Pas forcément. Pas forcément, parce que jusqu'à maintenant, on avait des croissances économiques et on avait des bons résultats d'entreprise. Mais sur le moyen terme, ces hausses de tarifs, ça amène de l'inflation, ça fait des barrières aux acquisitions. C'est pas bon quand même, boursièrement parlant.
Ouais. Malgré tout, le marché, il a encaissé, digéré et pas si mal Trump, le Brexit, la guerre en Ukraine.
On est encore sur le court terme. Et sur le court terme, quand on regarde les différences de performance entre les États-Unis et la zone euro, on a une pelle à tarte aujourd'hui. Quand même, quand on regarde nos moyennes valeurs, elles sont vraiment en déconfiture. Quand on regarde ce que dit Total pour savoir s'il ne va pas se faire coter aux États-Unis, non plus en ADR, mais en situation normale, comme place de cotation, c'est quand même violent. Hein.
Alors justement, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est un épargnant ? Est-ce qu'il faut rester très prudent et se dire « bon, j'ai peut-être une petite poche action et puis ce sera tout ». Est-ce qu'au contraire, il faut y aller et il faut y aller comment ? Alors déjà, est-ce qu'il faut être prudent ? Est-ce qu'il faut se dire « bah non, tiens, là, j'ai peut-être une fenêtre d'entrée ». Enfin, comment est-ce
là,
que…
Il y avait donc une bonne période pour acheter des obligations, hein, puisqu'on pouvait avoir du 6% sur des entre-obligations de reprise qui sont de très bonne qualité, qui, donc à 3-5 ans, nous rapportaient 6% par an. C'est plutôt bien. C'est encore le cas, on n'a peut-être pas du 6, on a peut-être du 5,20, 5,30, 5,50 sur des beaux dossiers. Mais alors, ce n'est pas très accessible pour le particulier,
oui,
il faut passer par des fonds. Alors, des fonds d'entreprise à maturité, à maturité donnée de 4-5 ans. Bon, c'est encore des choses qu'on peut faire, hein, ça c'est clair. C'est vrai que c'était facile aussi d'acheter du court terme, donc des SICAV de trésorerie, par exemple aux États-Unis qui rapportaient du 5,50 avec un dollar qui montait. C'était pas mal. Bon, est-ce que le dollar va continuer à rester si élevé ? S'il baisse les taux de 50 points de base, bah moins. S'il baisse les taux de 25 points de base, ça va rester assez fort. Bon, c'est pas encore complètement ridicule de placer son argent en trésorerie monétaire aux États-Unis. Et puis après, pour le reste, bah, les actions étaient à des prix élevés, en particulier aux États-Unis, hein, c'est bien clair. Ils sont beaucoup moins chers.
Et encore sur une partie de la cote.
Sur une partie de la cote, je suis d'accord.
On est d'accord que le contexte n'a pas changé, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Si on enlève les quelques 7, 8, 9, 10 vedettes, le reste du marché est assez flat.
Beaucoup moins cher, on est bien d'accord. Et en zone euro, aujourd'hui, on a des décotes en France, hein, parce que ça a fait mal quand même depuis le mois de juin, parce que les small et mid-cap sont complètement délaissés. Donc, c'est intéressant de s'y intéresser pour un horizon moyen terme. On n'est pas là sur le court terme, parce que à court terme, comme la visibilité est très réduite, on ne sait pas. Mais c'est vrai que sur le moyen terme, c'est-à-dire 3 à 5 ans, aujourd'hui, des valeurs défensives, puisqu'on ne sait pas encore vraiment si les taux vont baisser fortement, si l'économie va repartir alors que les États-Unis ralentissent, alors que la Chine est bien chaos, debout, économiquement, et que la zone euro, on le voit bien, va assez mal. Le moteur allemand est quand même en panne, et la France est avec un grand brouillard. Bon, donc les valeurs défensives s'imposent, hein, Air Liquide, c'est bien, quoi, hein, c'est clair.
C'est-à-dire que, justement, dans les mots que les épargnants peuvent entendre, cyclique, défensive, croissance, value, enfin, donc c'est quoi il faut raisonner comme ça, sur des grands types de valeurs, ouais. Il faut réfléchir sur des thématiques, il faut réfléchir sur des secteurs, sur des zones, qu'est-ce que...
Ouais, non, mais l'emblème là-dedans, c'est-à-dire que même les valeurs qu'on détestait le plus, nous, gérants professionnels comme Sanofi, remontent. C'est que vraiment, il faut acheter des défensifs, c'est la pharma, ouais. Celui qui trouve pas le vaccin du Covid qui monte, c'est fabuleux. Donc, Air Liquide comme valeur défensive, pour moi, dans mon esprit, s'impose. Hein, ça fait partie des toutes premières valeurs de mon portefeuille. Dans le secteur pharmaceutique, moi, je préfère Biomérieux qui est en fait une sorte de Nespresso de la pharmacie. Ils installent des équipements et ensuite, ils mettent des petites doses pour tester, en fait, différentes maladies. Ils gagnent pas beaucoup sur l'installation de l'équipement et beaucoup sur le renouvellement des doses. Hein. Comme ils ont très bien réussi le Covid, ils ont à la fois donc beaucoup plus d'hôpitaux et de cliniques aux États-Unis en particulier, et ils ont augmenté donc leur capacité à mettre des doses pour tester des choses différentes. Et on voit bien que le cours de bourse est en train de s'améliorer aussi parce que c'est mérité là pour le coup, c'est moins cher avec une belle visibilité d'un patron qui est arrivé qui me paraît assez ingénieux et intéressant. AXA aussi est une valeur défensive aujourd'hui. C'est vrai qu'elle s'est écartée des marchés financiers, devient plus proche de tout ce qui est technique. Et Bubble, le président, la rentabilité de l'industrie d'assurance sur le technique et non pas que sur l'épargne est deux fois supérieure à l'épargne. Donc dans des marchés chahutés, c'est bien d'avoir effectivement une diversification dans le secteur de l'assurance qui marche bien avec un rendement de l'ordre de 6-7% et des PER, donc ratio sur cours bénéfice, de 10 fois. C'est pas mal. Hein. Ouais. Voilà des exemples.
Quelques exemples délivrés par Eric Blaine. Donc Sanofi, AXA et Biomérieux, exemple.
Plutôt Air Liquide, ouais. Biomérieux et AXA, ouais, ouais. Que Sanofi.
Air Liquide, AXA et Biomérieux, effectivement. Sanofi, c'était pour illustrer l'incertitude de voir un titre remonter. Merci mille fois, Eric, d'être passé dans Cœur de Patrimoine. À très bientôt.
Avec plaisir.
Eric Blaine pour Swiss Life, gestion privée.
Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.